que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Les problèmes liés à la santé de la reproduction sont nombreux dans les zones en conflit. Cependant, ces problèmes n'attirent pas tellement l'attention des bailleurs de fonds. Ces derniers se focalisent plus sur d'autres besoins tels que le logement, l'accès à l'eau, oubliant les conditions physiques, mentales et psychologiques des couples par rapport à leur santé de la reproduction. Alors, quels sont ces besoins et comment les couvrir efficacement? Eh bien, on en parle dans les minutes qui suivent avec Dr. Polycarp Takou, il est coordonnateur de l'action humanitaire au Fonds des Nations Unies pour la population. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui des besoins de santé de la reproduction. D'abord, c'est quoi la santé de la reproduction?
La définition de la santé de la reproduction découle de celle de la santé. Et on entend par santé de la reproduction le bien-être général, tant physique, mental et social, de la personne humaine en ce qui concerne son appareil génital, en fait son appareil de reproduction, ses fonctions et son fonctionnement. Donc il faut noter que ce n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on peut dire que cela suppose aussi des préalables que la personne humaine peut mener sa vie sexuelle satisfaisante, de façon satisfaisante, en toute sécurité, et qu'elle soit capable de procréer de façon libre, de le faire aussi souvent qu'elle le peut, qu'elle le veut, qu'elle le souhaite.
Voilà, donc mener sa vie sexuelle de manière satisfaisante, hein, on retient.
Alors, sa vie sexuelle est reproductive.
Et reproductive. Oui. Alors, généralement, dans les zones en conflit, qu'est-ce qui se passe généralement? Quel est le constat que vous avez eu à faire, docteur?
Le constat que les partenaires ou les intervenants de santé de la reproduction ont fait,
oui,
c'est que la santé de la reproduction est souvent sous-estimée, parfois complètement ignorée. Et dans l'urgence, on pense rapidement à trouver un abri, trouver des vivres, régler les questions d'eau, qui sont des questions fondamentales.
Tout à fait.
Et puis les questions de santé. Et même dans la santé, vous voyez, on ne pense pas nécessairement à la santé de la reproduction.
On pense souvent aux épidémies, comment éviter le choléra, maladies des mains sales, des choses comme ça.
Ouais. On oublie que les femmes qui portaient les grossesses, du fait du stress, du fait du déplacement, ont plus de risques de faire des accouchements prématurés ou bien de faire des avortements.
Parce que souvent, parmi les déplacés, il y a des femmes enceintes. Hein.
Tout à fait. Il y a 5% moins de femmes déplacées, un peu plus d'ailleurs, qui sont des femmes enceintes. Alors, on oublie que celles qui étaient sous contraceptif doivent continuer leur contraception. Or, souvent, dans l'urgence, elles n'ont pas pensé à prendre leurs produits. On oublie aussi que du fait de la promiscuité, du fait de la destruction de la structure sociale, le risque de VIH et de transmission des infections sexuellement transmissibles est élevé. Donc, en fait, la santé de la reproduction est souvent sous-estimée. Je me réjouis de noter que depuis 10 à 20 ans, il y a un mouvement international, prise de conscience au niveau international pour que ces aspects soient considérés à leur juste valeur.
Donc, voilà. Okay, merci. Donc il y a, elle c'est beaucoup plus par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes, quels sont les besoins qu'il y a par rapport à leur santé de la reproduction?
Bon, je pense pas que c'est une affaire de femmes, puisqu'on a dit vie, ça a trait à la, vous avez dit vie sexuelle, j'ai dit vie sexuelle et reproductive, on a parlé de l'appareil génital, l'appareil reproducteur,
bien sûr.
Et l'homme et la femme, n'est-ce pas, sont concernés. Si on ne se limite qu'à la grossesse ne se fait pas seule, si on si on tient en compte le risque d'infection sexuellement transmissible, eh bien, ça concerne les deux sexes. Et une composante importante que l'on oublie assez, tout au moins pour laquelle on n'a pas... La composante jeune n'est pas suffisamment jeune et adolescent n'est pas suffisamment prise en compte. Voilà, merci.
Voilà. Donc, il y a, disons que même en situation de conflit, il y a des personnes déplacées, par exemple, qui ont des besoins sexuels et qui doivent les satisfaire, peut-être dans des conditions compliquées, difficiles.
Tout à fait. Des besoins sexuels et reproductifs. En fait, c'est plus que des besoins. C'est des droits de base qu'il faut dont il faut contribuer à la réalisation. Vous voyez ? Droit à l'information, droit au conseil et droit au service. Je dois savoir que je peux me comporter comme ceci pour éviter une infection sexuellement transmissible. Je dois savoir que je peux me comporter comme cela pour espacer ma grossesse. Je dois savoir que les services sont disponibles à tel endroit. Je dois savoir que si je vais à cet endroit, j'aurai droit à A ou B ou C ou D services. Et en même temps, quand j'arrive à ces endroits, je m'attends à recevoir des prestations de qualité. Ok, merci.
Mais généralement, on a l'impression qu'il n'y a pas tous ces services-là ne sont pas assurés.
Oui, oui, oui. Et ça se comprend. Je veux dire, ça se comprend en situation de crise. Oui, parce qu'on a une déstructuration de toute la société. Là où les déplacés sont arrivés, c'est là où ils estiment avoir moins de risques de sécurité. Donc, c'est pas nécessairement là où les structures sociales étaient établies et les attendent. Et parfois même le personnel qui devraient offrir ces services ne sont plus là. Les formations sanitaires ne sont plus fonctionnelles si elles n'ont pas été pillées et détruites.
Voilà.
Oui.
Toutes les structures ne fonctionnent plus comme...
Tout à fait.
Alors maintenant, pendant dans cette situation-là, on se retrouve dans une situation où plus rien ne marche, c'est l'insécurité, il y a des conflits. Maintenant, comment arriver à couvrir les besoins de santé de la reproduction des personnes déplacées ou réfugiées?
Disons, il faut penser fonctionner par étapes. Aux premières heures de l'urgence, il y a des interventions essentielles qui sauvent des vies. Et ces interventions sont regroupées dans un paquet qu'on appelle dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive. Alors, c'est l'ensemble des actions qui permettent de réduire la transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles. C'est l'ensemble des actions qui permettent de prendre en charge les conséquences des violences sexuelles et même de les prévenir. C'est aussi les actions qui permettent de réduire la surmortalité et la surmorbidité liées à la grossesse, c'est-à-dire liées à la crise, c'est-à-dire la mortalité et la morbidité, les maladies et le risque de décès du fait seulement du déplacement. Et vous voyez, c'est des interventions.
Donc, vous appelez ça un dispositif d'urgence.
Dispositif minimum d'urgence en santé sexuelle et reproductive, DMU. Ouais. DMU, oui. Alors, donc, toutes ces interventions se font par divers intervenants, divers partenaires, et cet ensemble de services, n'est-ce pas, doit être mis en œuvre de façon coordonnée. Donc, ça, c'est la première étape, les premières phases. Voyez, et au fur et à mesure que la situation se stabilise, eh bien, on offre progressivement le paquet de services complets de santé de la reproduction, à savoir les soins obstétricaux d'urgence, un plan plus élaboré de lutte contre le VIH-Sida, de lutte contre les violences sexuelles, alors qu'aux premières phases, c'était des interventions essentielles dont le but est de sauver la vie.
Bien, nous avons déjà les auditeurs en ligne qui vous suivent, docteur, à travers le pays et qui veulent bien participer à cette émission. Edgar Lokamba, le tout premier, Tati Edgar Lokamba, qui nous appelle des Kananga. Nous avons Ismaël Mompoy de Lumbashi et Clément Mouya de Mbujimaï. Alors, d'autres auditeurs, vous voulez également participer à cette émission? Composez le 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment couvrir les besoins de santé de la reproduction en zone des conflits? Edgar Lokamba, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Merci pour la parole.
On vous écoute.
Oui, je voudrais d'abord souligner, je dis, qu'il y a lieu de considérer le pays tout entier comme zone en conflit, vu son état actuel, parce qu'il y a des zones de conflit dans presque toutes les provinces. Ceci dit, la santé de la reproduction est un problème qui concerne le gouvernement ainsi que chacun d'entre nous. Et comme l'a défini notre invité, la santé de la reproduction, c'est un état de bien-être général, physique, mental, social et tout, ainsi de suite. Bon. En tant que tel, l'invité sera d'accord avec moi qu'il est difficile de couvrir les besoins de la santé de la reproduction dans des zones de conflit, dans tous ces aspects. Néanmoins, on sait qu'il y a quatre domaines dans la santé de reproduction. La santé de la mère, santé de l'enfant, santé des adolescents et la santé de l'homme. Et vous venez même de poser la question à notre invité en ce qui concerne la situation de l'homme. Et moi aussi, je constate avec regret, je dis, que presque tous les efforts qui sont déployés tant par le gouvernement que par les partenaires ne concernent que les trois premiers domaines. Les trois premiers domaines plutôt. Et on accorde vraiment peu ou pas du tout de l'importance à la santé de l'homme. La preuve, c'est qu'à ma connaissance, à moins que l'invité puisse m'aider, oui, il n'existe pas un programme comme on le voit par pour les femmes, les enfants, maternité à moins de risque, c'est obstétricaux d'urgence, ainsi de suite. Donc, il faut, comme le dit bien la cinquième composante de la santé de la reproduction, former les hommes en vue de leur implication dans la santé de la reproduction et leur responsabilité pour améliorer le rôle et le statut de la femme. Pour terminer, je pose ma question, oui, à l'invité. Quels sont les principaux indicateurs qui nous permettent ou qui nous permettront de dire qu'il y a amélioration de la santé de la reproduction dans notre pays? Merci, Jody.
Bien, merci Edgar. Ismaël Mompoy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody, à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, la santé de la reproduction, c'est un problème très majeur qui touche presque toute la population. La démonstration évidente de cet amour ne fait pas les ONGD. Mais ce que nous constatons à Dimon, ce sont ceux qui sont dans des différents services qui consomment ces frais. Je demanderai par exemple à l'invité pour la première question de savoir, oui, dans une zone de conflit, comment on peut évaluer le bilan par exemple des 5000 déplacés pour se rassurer réellement que la vie et de la santé et de la reproduction sont tenus à haute estime. La deuxième question...
Un instant, Ismaël, on n'a pas bien compris la question. Pouvez-vous la reprendre?
Par exemple, dans une zone où on couvre 5000 déplacés.
Oui.
Par exemple, c'est pour différents conflits. On peut se rassurer au taux de pourcentage de ceux qui sont déplacés pour savoir réellement que les besoins ou la santé de la reproduction est tenue.
D'accord.
L'occupation, c'est de savoir réellement les fonds qu'on utilise. Ce sont ceux qui sont dans ces différents services qui consomment ces frais. Voyons par exemple, on a des vaccins pour les enfants, pour les adultes. C'est presque difficile. Comme préoccupation, on devait maintenant multiplier et les unités sanitaires et le personnel sont les formés dans de différents services spécialement pour tel ou tel service, c'est là où on pourrait aussi réussir la santé de la reproduction. Et le taux, par exemple, de la naissance à la maternité, c'est presque élevé. Ici, il y a même une maternité même qui va aller jusqu'à $50.
Oui.
C'est presque difficile. C'est pour cette raison que nous enregistrons la mort d'un enfant et de la mère. Moi, j'ai fait le travail pris en charge de grossesse à haut risque. Sinon, il faut instaurer premièrement la consultation gratuite. Comment ça, on peut arriver? C'est par exemple, on passe par une sensibilisation concrète
D'accord.
De maison en maison et oui. De quartier en quartier.
Merci.
Et là, si cela est tenu, on peut avoir plus aussi la reproduction en santé maternelle et enfantine.
Merci Ismaël Mupori de Lubumbashi. Docteur va répondre tout à l'heure. Sa question est de savoir, premièrement, s'il y a 5000 déplacés, comment évaluer les besoins en termes de santé de la reproduction. Et puis, il déplore le fait que les services dans ces domaines coûtent un peu plus, ça coûte un peu plus cher. Nous avons Clément Mouya de Mbujimayi. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Jody Daniel. Bonjour à l'invité. Bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute Clément.
Oui, moi je voudrais surtout parler concernant les militaires. Dans le concret, qu'est-ce que l'invité peut nous dire pour les militaires qui sont dans les zones de conflit, qui ont déjà fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans pour autant être en contact avec leurs épouses? Est-ce qu'il y a-t-il de mesures de prise en charge sur le plan international ou gouvernemental de ce policier ou militaire? Et aussi, je voudrais épingler un autre point. Nous avons toujours remarqué que dans les zones de conflit, il y a une femme qui est violée par 10 ou 15 policiers ou militaires. Ne voyez-vous pas que si la prise en charge n'est pas effective, n'est-ce pas ça une bombe à retardement pour le pays dans les zones en paix? Voilà un peu mes petites préoccupations ce matin, monsieur Jody.
Merci Clément. Malonga de Bandounouville, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité et à tout le monde qui nous suit.
On vous écoute Malonga.
Ok, ça va. Bon, je vais demander à notre invité comment maintenir cette santé de la reproduction. Et encore, je vais dire ceci, Jody, vous voyez ce qui nous complique souvent, c'est la foi en Christ. Puisque la croyance chrétienne nous installe ou bien nous dispose de croire ce qui est vrai et ce qui a été fait. Notre invité a soulevé les méthodes contraceptives. C'est que moi, je suis lecteur de la Bible aujourd'hui, mais je n'ai jamais vu dans la Bible où une femme a utilisé quelques médicaments le suspendant de ne pas mettre au monde.
Bon, Malonga, bon, on n'est pas là, on n'est pas encore là, parce que nous, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux besoins de santé de la reproduction en zone de conflit. Alors, comment aider ces gens qui sont en zone de conflit de pouvoir avoir une bonne santé sexuelle et reproductive? Alors, une question par rapport à ces thèmes-là, les restes, on aura l'occasion d'en parler plus tard.
Oui, ça va. Bon, pour ces gens qui sont là, d'abord, il faut d'abord organiser il y a des organisations internationales qui s'intéressent à ces gens. Ce sont ces gens qui doivent organiser une structure de la sensibilisation des données et surtout il faut laisser les soldats là ou bien les gens qui sont dans cette zone la liberté. Chacun il doit avoir sa femme et vice-versa. Mais s'ils sont beaucoup séparés, comme mon prédécesseur vient de demander là-bas,
oui.
Et bientôt l'invité va nous éclaircir, vous verrez que le besoin et le défi va s'imposer et il n'y aura plus encore les calculs.
D'accord. Merci Malonga. La Guillois, vous êtes à Kalimi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kassama.
On vous écoute.
Bonjour à l'invité et à tous les côtés de
la radio. Allez-y, quelle est votre question?
Merci beaucoup, Jody Daniel. J'ai une seule question.
Oui.
Et vous voyez, dans une zone de conflit, un militaire qui est parti au front,
oui.
Et que lui vient de violer une femme suite au désir des relations, suite des rapports sexuels. Une femme qui est violée maintenant par 5 personnes militaires, et que lui aussi, sa femme qu'il a laissée à la maison, vient d'être violée. Comment fait-on, avec l'invité, comment fait-on protéger un peu la reproduction entre une femme qui est violée par 5 militaires? Maintenant, si il n'y a pas le moyen de pouvoir aussi dire à ces gens, à ces militaires qui partent au front, de partir avec les femmes, parce qu'ils sont en train de préjudicier les autres femmes. Voilà ma préoccupation, mais c'est jeudi.
Voilà, merci. Delphine Kapoukou, vous êtes à Dungu, en province orientale. Oui. Nous parlons de comment couvrir les besoins de santé de la reproduction en zone des conflits. Delphine, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Ok. Moi, je voulais demander à l'invité d'essayer de nous expliquer d'abord la santé de la reproduction, parce qu'on n'a pas bien compris ça, tellement que c'est comme si dans les zones où est affecté avec les conflits, il y a les gens qui mordent, et puis et si on explique l'augmentation de la population, malgré que les gens sont en train de mourir, il y a eu une augmentation de la population. Alors je voulais que l'extrême vienne vouloir m'expliquer la santé de la reproduction.
Voilà, merci. Patient Titoko de Lumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama, bonjour à tous les de la radio. Patient Titoko vous appelle à partir de Katanga.
On vous écoute, patient. Désolé, on l'a perdu. Patient n'est plus en ligne. Voilà, il y a eu plusieurs préoccupations des auditeurs, docteur Polycarpe. Il y a le premier intervenant de Edgar de Kananga. Il dit il y a dans la santé de la reproduction, il y a la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et de l'homme. Il a l'impression que l'homme est souvent il n'est pas pris en compte par rapport aux trois premières catégories.
Merci, mais il faut saluer l'intervention d'Edgar parce que j'ai cru noter que c'est un intervenant de santé de la reproduction.
Oui.
C'est relativement bien de quoi il parle. Et donc on va juste s'instruire mutuellement.
D'accord.
Alors, je ne pense pas que l'homme est tout aussi négligé qu'on le fait croire. Parce que quand la santé de la reproduction s'intéresse au cas d'infertilité et de stérilité. Voyez ? Donc c'est pour permettre au couple d'avoir le nombre d'enfants qu'il souhaiterait avoir. Donc en fait, il y a une prise en charge du couple, de l'homme et de la femme. L'infertilité n'étant pas toujours féminine, la cause n'étant pas toujours féminine, comme on le pense.
Par exemple, en zone des conflits, vous avez suivi plusieurs auditeurs, sont revenus sur les militaires,
oui,
qui sont au front, il a laissé sa femme, il est au front pendant 5 ans, et puis voilà, comme il doit satisfaire à ses besoins sexuels, voilà, il se lance dans les viols des femmes, ça c'est fréquent dans notre pays.
Oui, oui. Peut-être
certains ont dit, faut-il les laisser partir avec leurs femmes pour leur bien-être sexuel?
Alors, avant d'y arriver, je peux plutôt faire noter à Edgar que l'utilisation des préservatifs masculins est plus important, tant en zone de façon globale, mais tout aussi en zone humanitaire, plus important que l'utilisation des préservatifs féminins. Donc, je crois que Edgar veut attirer notre attention pour que les interventions ciblent davantage les hommes, autant les hommes que les femmes. Mmh. Il faut aussi reconnaître que les hommes n'ont pas la même exposition au risque que les femmes. L'homme n'accouche pas, n'est-ce pas? Mmh. Il faut donc des dispositions spéciales pour la femme qui a un risque supplémentaire de mourir du fait de la grossesse.
Voilà, oui. Voilà. Et par rapport à la question de ceux qui ont estimé qu'il faut que l'homme parte, les militaires partent avec leur femme pour éviter les cas de viol, vous savez, en zone en conflit, on déplore beaucoup les cas de viol.
Je ne sais pas si je suis bien indiqué pour répondre à cette question, n'est-ce pas, qui relève probablement de l'organisation et du fonctionnement des armées et des règles des règles et des exigences, des contraintes et des exigences de chaque profession.
Mmh.
Je ne saurais pas penser qu'il faut que les femmes aillent avec leurs militaires, leur mari. J'en sais rien, je ne suis pas militaire. Mais je ne sais pas si c'est nécessairement ça la solution au problème. Ce que l'on fait, UNFPA et les autres partenaires, c'est davantage éduquer, former le personnel en tenue pour qu'ils comprennent davantage leurs responsabilités, pour qu'ils comprennent le droit des personnes qu'ils sont appelés protéger et qu'ils comprennent le droit même des personnes qui sont au front de leurs ennemis. Donc je pense que si c'est réel que la plupart des cas de viol sont commis par les groupes armés, bah, ça peut être des militaires qui ne sont pas nécessairement des militaires de la partie, des personnes armées qui ne sont pas nécessairement de la partie gouvernementale. Mmh. Eh bien, si la plupart des viols sont commis par des personnes armées, eh bien, je crois que les solutions ne passent pas nécessairement par par le fait qu'ils doivent amener leur femme au front rouge, quelque chose de ce genre.
Donc, comme vous avez dit au préalable, il faut que ces personnes, ces militaires, soient éduquées.
Et en fait, il y a des programmes que UNFPA, la MONUSCO, le HCR, l'UNICEF, d'autres partenaires des ONG, mettent en œuvre sur le terrain et qui sont orientés pour la protection des militaires, pour la protection de ceux que les militaires sont appelés à protéger, que ce soit en rapport avec les violences sexuelles, que ce soit en rapport avec le VIH-SIDA, que ce soit en rapport avec les grossesses et autres.
Voilà, il y a Ismaël qui a posé la question de savoir, vous avez par exemple 5000 personnes déplacées, comment évaluer les besoins de santé, les besoins de santé et de la reproduction?
Par rapport au dispositif minimum d'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire une évaluation de base pour offrir ces prestations-là. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une information de base, le nombre de personnes concernées. Et quand j'ai le nombre de personnes concernées, il y a des standards qui me permettent de savoir, parmi ces 5000 personnes, comme il a donné le chiffre de 5000, il y aura tel nombre de femmes, il y a tel nombre de femmes enceintes. Par exemple, on sait, parmi les 5000 personnes, globalement, il y a 23% qui sont constitués de personnes en âge de procréer, hommes et femmes. On sait aussi qu'il y a 5% de ces personnes-là qui est constitué de femmes enceintes. Et on sait qu'il y a environ 4,5 qui vont accoucher dans les... Donc j'ai ces différentes constantes-là qui me permettent de savoir approximativement le nombre de personnes qui a tel besoin et qu'il faut couvrir. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'aller dans tous ces détails pour offrir les prestations du dispositif minimum d'urgence.
Parlez-nous par exemple de ce que l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies, fait déjà en zone en conflit, dans les zones en conflit par rapport à la santé de la reproduction.
Donc, en tant que institution humanitaire et étant en charge de la mise en œuvre, de la coordination de la mise en œuvre ou de la promotion de la mise en œuvre du plan d'action de Caire, vous voyez, en 1994, s'est tenue au Caire la conférence sur la population et le développement, et il y a eu un plan d'action que tous les pays sont appelés à mettre en œuvre. Donc UNFPA a la responsabilité de faire la promotion de la mise en œuvre de ce plan d'action. Et en tant qu'agence humanitaire, l'UNFPA fait le plaidoyer, n'est-ce pas, pour que davantage il y ait une prise de conscience, pour que davantage il y ait des ressources, pour que davantage il y ait des programmes développés pour la santé de la reproduction. Donc il y a une action de plaidoyer qui est majeure. Il y a une action de développement de partenaires, parce que UNFPA ne peut rien seul. UNFPA parle aux autres partenaires pour qu'ils s'impliquent davantage. Et UNFPA soutient le gouvernement et les partenaires ONG et les partenaires de la société civile pour que différentes interventions soient mises en œuvre dans les situations de crise.
De crise. Hein. Alors, il y a un auditeur qui est venu sur la question de savoir c'est quoi la santé de la reproduction. Donc, pouvez-vous lui rappeler ce que vous avez dit au début?
Oui. Le rappeler, mais en étant davantage pratique, là. C'est vrai, une définition, ça se donne. Oui. Mais, parler de bien-être général, physique et mental, social, de la personne pour ce qui concerne son appareil de reproduction, ses fonctions, son fonctionnement, oui, c'est assez théorique. Mais je voudrais dire, de façon pratique, c'est tout ce qui est lié aux informations, conseils, communications et services en rapport avec la planification familiale, tout ce qui est lié aux informations, aux conseils et services en rapport avec la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, ce qui est lié, comme je l'ai signalé tantôt, à la prévention ou au traitement de la stérilité ou de l'infertilité.
L'infertilité, oui.
Ce qui est lié à la prise en charge et des conséquences ou des complications de l'avortement, donc ce qui est lié aux violences sexuelles ou aux violences liées au genre, les mariages précoces, les mutilations génitales ou ce qui est lié à la lutte contre les VIH et les infections sexuelles.
Voilà, c'est tout un paquet, quoi. Il y a beaucoup d'éléments.
C'est tout un paquet, en effet.
Alors, on retient que dans les zones en conflit, il est très important de prévoir un dispositif d'urgence en santé sexuelle et reproductive.
Oui, il est essentiel de mettre en place ce dispositif dès le début de la crise. Plus on agit tôt, plus de vies on sauvera.
Si on ne le fait pas, donc on notera des femmes qui vont accoucher dans des conditions difficiles, on comptera les morts.
Le nombre de maladies, des infections, le nombre de fistules, on comptera le nombre de ruptures utérines, on comptera le nombre d'éclampsies conduisant au décès, on comptera le nombre de violences sexuelles, on comptera le nombre de cas d'IST ou de VIH.
Voilà. D'où il est important de prévoir ces dispositifs.
Tout à fait.
Voilà. Merci docteur Policar Patakou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'action humanitaire au Fonds des Nations Unies pour la population, RDC. Merci et à la prochaine.
Merci, le plaisir était le mien.